7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, le couple à l'épreuve de la précarité. On parle souvent des conséquences de la pauvreté sur les enfants, mais finalement rarement sur le couple. Alors peut-on s'aimer quand on a d'énormes problèmes d'emploi, de logement, que l'on n'arrive pas à boucler son budget ? Le chômage a-t-il clairement une incidence sur l'instabilité des couples ? Pourquoi dans les sociétés actuelles, tant d'hommes et de femmes semblent s'exclure volontairement du terrain amoureux à cause de leur précarité? Nous allons en discuter avec nos invités. Brigitte Halsberge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des départements solidarité familiale au Secours catholique. Patricia Delahaye, psychosociologue et coach, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'amour et sur le couple, notamment « Comment s'aimer toujours » et « Ces amours qui nous font mal ». Claude Martin, vous êtes à Rennes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Armorique. Vous êtes sociologue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'Université de Rennes et vous avez publié un ouvrage sur la parentalité, être un bon parent, une injonction contemporaine. Et puis, quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines qui nous écoutez, appelez-nous pour nous dire si le manque crucial d'argent contribue à détruire le couple ou pas forcément. On attend bien sûr vos témoignages, vos réactions au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'oubliez pas de laisser un numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appeler le plus tôt possible, évidemment avant la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. On peut dire que globalement notre fil de discussion est submergé aujourd'hui par une assez grande amertume masculine. Vincent, qui est à N'Djamena, au Tchad, nous dit « Moi, j'étais avec ma copine pendant 2 ans. On parlait de mariage et elle vient de me quitter parce que je suis en galère. Je n'ai pas un travail qui me rapporte beaucoup. Et du coup, je suis toujours aidée par mes parents. J'ai appris qu'elle est partie avec un ami qui travaille depuis longtemps et qui gagne bien sa vie. » Mohamed, Conakry, en Guinée, dans mon pays, le matériel l'emporte sur les sentiments. Un garçon peut aimer une fille pauvre, mais les filles ne sont plus capables d'aimer un homme pauvre, car l'extérieur est la seule chose qui compte à leurs yeux. Wilson, à Antananarivo, à Madagascar, nous dit « Il faut simplement reconnaître que notre société évolue. La survie du couple dépend non seulement de l'amour, mais également des facultés de chacun à subvenir aux besoins de l'autre. » Ou encore le témoignage de Palmer, Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui a le sens de la formule « l'amour dans la pauvreté », nous dit Palmer, « c'est de la science-fiction. Les femmes ne tombent plus amoureuses des hommes pauvres. » Voilà, vraie réaction, hein, elles sont extrêmement nombreuses. Alors, je pourrais aussi vous livrer celui de Marlon qui est à Lomé au Togo, qui va dans un autre sens. Il nous dit « moi, à Lomé, je connais des femmes qui font tout pour que leur couple tiennent la route, même dans la pauvreté. Elles travaillent, s'occupent de la famille, subviennent à ses besoins comme un homme. Les hommes ne savent pas tout ce que leur femme ferait par amour pour eux. » Voilà, un beau témoignage, hein, belle règle. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone qu'il vous faut composer dès maintenant pour discuter avec nos invités. Brigitte Halsberge, Patricia Delahaye, Claude Martin, je vous ai vu prendre des notes, vous avez envie de réagir par rapport au témoignage de nos auditeurs, Brigitte Halsberge.
Mais j'entends bien parmi ces témoignages, ce que je trouve important, c'est d'entendre effectivement qu'il y a cette difficulté de lien dans la pauvreté, et aussi de dire que il y a quelque chose de difficile avec pour les hommes d'être reconnus. Ça veut dire qu'on y a encore cette image de l'homme qui doit porter financièrement la famille. Nous, au Secours catholique, dans les familles qu'on accompagne, on a quand même une proportion de familles de mamans seules avec enfants bien plus grande que dans la société française, et donc on se rend compte que là il y a quelque chose qui qui est proche de, des témoignages qui sont donnés, et en même temps...
Ce que vous nous dites contrebalance très largement l'amertume des hommes dans les témoignages, qui se sentent les premières victimes, finalement, de la pauvreté pour bâtir un couple.
Oui, voilà, et de fait, on voit beaucoup de familles monoparentales où les papas ont du mal à rester en lien, mais où, en tout cas, c'est les hommes qui sont un petit peu mis de côté, donc ça, j'entends bien par rapport à ce qu'ils disent, et en même temps, moi, j'ai en tête pas mal de témoignages de couples où les deux essayent de se battre pour tenir, et ça rejoint le dernier témoignage aussi, donc je pense que voilà.
Claude Martin.
Moi je trouve que ces témoignages en tous les cas témoignent d'un phénomène très important qui renvoie d'ailleurs à la division des rôles des sexes, au fait que les hommes sont encore dans l'esprit de beaucoup les bons pourvoyeurs, même si dans pas mal de pays dont la France, on a les deux membres du couple qui contribuent au budget du ménage. Il y a tout de même un phénomène qui est frappant, c'est le cas des hommes qu'on pourrait appeler invariables, qui ne sont pas dans des situations économiques ou de stabilité suffisantes pour pouvoir
fonder un couple,
donner les garanties, donner les garanties qui sont susceptibles d'être nécessaires pour fonder un couple. Voilà, donc ces hommes invariables, on les trouve dans tous les témoignages que vous avez mentionnés, on les trouve beaucoup dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est également un phénomène très très fort. Donc je pense qu'il faut comprendre que on n'a pas le même phénomène selon qu'on est au début de la formation du couple ou au fil de la vie conjugale. Les situations monoparentales, c'est un peu un autre stade, c'est celui où les couples se sont défaits. Mais dans le moment de constitution des couples, les hommes invariables, ce sont des hommes qui considèrent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour garantir la vie de couple.
Patricia Delahaye, vous distinguez aussi beaucoup la pauvreté quand elle s'attaque au couple, à un couple qui est déjà formé, et la précarité avant que le couple ne se forme.
Oui, alors il semble que l'amertume soit plutôt du côté des hommes qui sont des candidats à l'amour, en quelque sorte, qui se sentent. C'est pour ça qu'il faut bien insister sur le fait qu'ils se sentent discriminés. Qu'ils ne voient pas en fait les richesses qu'ils peuvent avoir en dehors des richesses matérielles, parce qu'il y en a d'autres. Il y a des richesses humaines, il y a des richesses de sensualité, il y a des richesses d'humour, des richesses de gentillesse. Toutes celles-là sont mises de côté quand on ne se sent plus capable d'être riche matériellement ou quand on ne l'est pas.
À ce propos, je voulais juste faire une parenthèse avec le témoignage d'Inès qui va dans le même sens que vous, de Cotonou, qui nous dit « N'oubliez pas que Cendrillon est une femme. Si elle avait été un homme, il aurait fallu qu'elle compense sa pauvreté par de l'héroïsme, de la bravoure pour mériter son titre de princesse. » C'est bien vu.
Oui. Et puis c'est vrai que en revanche, quand les couples sont constitués, ça dépend en fait à quel moment on se rencontre. C'est vrai que entre deux hommes, quand on hésite entre deux hommes, peut-être qu'effectivement la dimension matérielle va entrer en ligne de compte. Mais on voit bien qu'il y a moins d'amertume et plus de solidarité quand ce sont déjà des couples constitués. À ce moment-là, quand c'est un couple qui s'entend bien, un couple qui s'aime, on va faire face ensemble. Et effectivement, les femmes à ce moment-là vont avoir aussi le courage, de l'entraide.
Brigitte Alsberge, au Secours catholique, les trois quarts des personnes que vous aidez, grosso modo, et que vous accompagnez, sont parmi les plus pauvres de France. Comment se pose très précisément la question du couple dans les difficultés matérielles ?
Ça dépend déjà de l'âge des personnes. Je pense que il y a dans les couples qui se constituent, ce qu'on se rend compte, c'est que si les gens sont très jeunes, la question des moyens va être très importante, entre autres pour la question de la survie matérielle tous les jours, mais aussi par exemple pour les questions de logement. On va avoir des jeunes qui vont être incapables de se mettre en couple parce que les seuls moyens d'habiter demandent des financements qu'ils n'ont pas. Donc de fait, on va avoir des jeunes qui vont squatter chez d'autres, qui vont rester en famille.
Mais pour les couples déjà constitués,
pour les couples déjà constitués, c'est vrai que c'est difficile. Voilà, c'est difficile.
Qu'est-ce que vous avez comme difficulté, vous, de votre côté, pour aider ces couples-là ?
On observe pas mal de séparations. Parce que tout simplement, si vous prenez la question du logement, quand vous êtes dans un logement tout petit, avec le couple et les enfants, c'est très compliqué d'avoir une vie de couple. parce que vous allez avoir du mal à vous isoler, du mal à avoir du temps pour vous. Quand vous n'avez pas d'argent pour avoir du temps pour le couple, bah ça coûte. Ça veut dire qu'on sort de chez soi, ça veut dire qu'on doit payer, qu'est-ce qu'on fait des enfants. Voilà, il y a toute une série de conditions qui font que la vie du couple demande à être un petit peu cultivée au quotidien, d'avoir du temps un petit peu pour ça. Et si on vit dans des conditions qui sont telles qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens d'être ensemble, eh bien c'est difficile. Si vous rajoutez là-dessus des questions de pression financière, de difficulté de finir le mois...
Qui génère une angoisse, hein,
voilà,
forcément.
Une angoisse. Moi, je pense que chacun, quand on a des ennuis, on est déjà bien stressé. Si on fait la somme des difficultés que peuvent vivre des familles qui ont des revenus très 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 bas, eh bien, le stress aidant, ça rend la communication encore plus difficile, la vie en commun encore plus difficile.
Ça, c'est pour les difficultés matérielles. Hein. Sur à propos de la place que l'on occupe dans la société, le regard extérieur aussi sur le couple en très grande difficulté financière.
Mais le regard de la majorité sur ceux qui sont en difficulté et pas toujours très tendre. Tout simplement, pour beaucoup, la question de la pauvreté, c'est on a quand même l'idée que ceux qui sont dans la pauvreté n'ont pas fait peut-être tout ce qu'il fallait pour ne pas y être. Et donc, ça fait des regards un petit peu durs aussi sur ces couples-là. L'autre chose, c'est que quand on est dans des familles où il y a des ruptures à répétition, le regard des personnes extérieures est aussi un petit peu dur en disant, ben voilà, trois enfants, trois conjoints, voilà, c'est le jugement peut arriver assez vite sur ces couples-là.
De nombreux auditeurs se manifestent déjà au standard. Je crois qu'on touche vraiment à un problème énorme et qui concerne énormément de monde. Évidemment, peut-on s'aimer dans la précarité? En fait, quelle incidence, hein, la pauvreté et les difficultés matérielles sur le couple déjà constitué d'ailleurs, 33 1 84 22 71 71. Vous nous appelez, on prend dans quelques secondes vos appels.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Nous sommes en ligne avec Marcel, qui nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Marcel.
Bonjour Daniel, comment allez-vous?
Très bien, soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. La précarité, les conséquences de la précarité sur le couple, c'est un sujet qui vous touche ou qui vous touche votre entourage, hein, je crois.
Exactement. Moi, je voudrais participer en donnant des témoignages des amis à moi. Donc, j'en ai quatre. Disons que c'est un échantillon qui dit long sur la situation au niveau de mon pays.
Ouais.
Donc, je commence par les deux amis qui, entre 23 et 25 ans, on s'est engagés avec des filles et de manière assez sérieuse, hein, pour arriver à aboutir à constituer à une famille et tout. Voilà, on était très très ambitieux, donc à l'université, on est déjà engagé. Bon, les deux amis ont eu une situation assez compliquée, dans ce sens que notre pays n'offre pas d'emploi. Statistiquement, c'est pas évaluable. Les taux, donc les taux de chômage en RDC, je pense que on dirait à s'avoisiner le 100%. Parce que l'emploi qui existe n'est pas...
En tout cas, dans l'économie informelle, exemple, effectivement, ce sont des petits boulots pour survivre, y compris pour les diplômés. Je vois ce que vous voulez dire.
Voilà.
Mais alors, venons-en à votre entourage, Marcel, parce que de nombreux auditeurs souhaitent également apporter leur témoignage.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les amis? Les amis, une fois engagés, et la famille s'est interposé en disant que c'est un étudiant, quand est-ce qu'il va et comment il va te nourrir, est-ce qu'il a un minimum vital. Alors, les parents avaient décidé pour les deux premiers cas de faire voyager carrément les filles en Europe. Donc comment ça se passe ici? On vend une parcelle et on fait des démarches avec de l'argent, c'est toujours possible d'atteindre les pays développés. Et c'est comme ça que ces filles sont parties. Une fois sur le lieu, elles ont gardé contact, mais qui n'a pas duré 3 mois. Juste après, le quotidien européen occidental les a complètement déconnectés de leur compagnon ici.
Ouais.
Les deux autres cas, c'est des amis encore très proches qui avaient du boulot. Ils ont le premier est allé même jusqu'à faire ce qu'on appelle chez nous pré-dot, mais seulement dans le Congo central, là où vient la région du président Kassavubu dans le Congo central. Donc il faut d'abord démontrer que vous avez la capacité de vous marier, de prendre en charge réellement une dame. Donc il faut faire une grande fête avant de passer au mariage proprement dit. Donc c'est comme ça que le jeune homme va le faire. Il va faire une très grande fête. Nous étions tous là, on avait beaucoup mangé.
Ouais.
Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il passe? Lui, gérer une structure, une sorte de chambre froide, c'est-à-dire une société qui conserve et vend des vivres frais, enfin des OGM. Et quelques temps après, il va faire ce boulot. Sa copine, enfin sa fiancée, va carrément être courtisée par un autre monsieur qui était dans son quartier, qui lui partait pour l'Europe.
Ouais, ouais.
Elle va même se faire engrosser.
Oui, alors donc, voilà. Marcel, on comprend bien votre témoignage. Hein. Bien sûr, à la fois, il y a un problème de télescopage entre, finalement, la pauvreté généralisée dans votre pays. Il faut rappeler quand même qu'en RDC, on a plus de la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et puis, en même temps, les mirages de l'Occident, tout ça dans des sociétés qui valorisent beaucoup l'avoir. Je voudrais qu'on laisse la parole également à Ibrahim, qui veut nous parler de lui-même, qui est à N'Djamena, au Tchad. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Emmanuel.
Ibrahim, vous avez 30 ans, vous avez perdu votre emploi il y a quelques mois et vous vous êtes retrouvé séparé de votre ami.
Oui, c'est exact.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement au sein de votre couple?
Ok, moi j'ai perdu mon emploi il y a 3 mois. Et j'étais avec une fille depuis un an et demi. Mm. Et du coup, je me suis séparé d'elle parce que j'ai eu honte, parce que je n'avais pas d'argent pour l'inviter.
La décision est donc venue de vous, hein?
Oui, venue de moi. Comme je n'avais rien, quand elle m'appelle, j'ai honte même de décrocher le téléphone. Mm. Et parfois, je lui manque, et je suis en voyage et tout ça. Je ne sais pas quoi faire.
Et donc, elle semble regretter votre décision, si je comprends bien.
Oui.
Et vous aussi?
Oui, moi, j'avais honte parce que je n'avais pas d'argent, sinon je l'aimais jusqu'à là.
Hmm. Patricia Delahaye, pardon. Vous êtes psychologue et.
Si vous voulez, c'est une des grandes difficultés de la précarité, c'est de pas ajouter du malheur au malheur, c'est-à-dire de pas ajouter un malheur psychologique au malheur matériel. Et bien des hommes, ça c'est plus particulier aux hommes, se sentent humiliés, honteux, dévalorisés par le fait de ne pas pouvoir proposer un bien-être matériel à la personne qu'ils aiment. C'est vrai aussi en France, par exemple, où des hommes sont au chômage, font semblant de ne pas l'être. C'est ça qui peut provoquer un divorce. C'est-à-dire que c'est une sorte de... On veut protéger sa compagne de ses difficultés, mais du coup... On l'isole, on ne lui donne pas l'occasion d'être solidaire, on ne lui donne pas l'occasion de prouver son amour et on arrête d'être à deux. En fait, le couple s'en sort, se sort de la précarité affective, si vous voulez, ou de la pauvreté affective que provoque la pauvreté matérielle, en étant soudés, solidaires et ensemble. C'est ça. Il faut essayer que la joie de vivre et l'amour soient plus forts que la précarité.
Ouais, quand on est dans la précarité, il y a finalement, sous-jacent au discours et au témoignage d'Ibrahim, cette notion que ce n'est plus la priorité finalement. Hein. Il faut d'abord régler ses problèmes matériels.
Hein. Oui, oui et non. Je suis assez d'accord avec Madame Delahaye sur le fait que c'est comment on choisit d'être ensemble. Et du coup, de faire ce choix de priorité ensemble. J'entends bien ce que nous a dit Ibrahim, et ça correspond à toute une série de réalités que nous, on rencontre. Mais je me rends compte que ceux qui arrivent à tenir, c'est ceux qui arrivent à se dire, voilà, la priorité, c'est pas forcément le matériel, ça peut être le couple, mais c'est comment on choisit la priorité ensemble.
Et la possibilité de donner, Ibrahim, à votre ex-petite amie que vous aimez toujours visiblement et qui vous aime toujours, de lui donner un beau rôle, hein, dans cette affaire finalement.
Oui.
Hein. J'espère que vous avez bien entendu les conseils et l'analyse de Patricia Delahaye, Ibrahim.
Oui.
Hein, non, ne pas rajouter de la peine à la première peine.
La peine
finalement.
D'être seule, ouais. À celle d'être pauvre. Ouais. Et si ça se trouve, votre compagne vous aimera encore plus de pouvoir vous aider et être avec vous. Ce sera un moyen pour elle de vous prouver son amour.
Le couple face à la précarité, on en reparle dans 3 minutes. Après.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, le couple dans la tourmente de la précarité. Quand le chômage et les difficultés matérielles au quotidien envahissent la vie de couple, quelle solution pour faire tenir son histoire? C'est une question qui est régulièrement posée d'ailleurs au sein des ateliers du Secours catholique. Vous nous en parlerez, Brigitte Halsberge, hein, parce que le couple n'apparaît pas forcément, pour les politiques notamment, hein, comme une priorité. On parle d'abord, bien sûr, de l'avenir des enfants dans la pauvreté. Mais néanmoins, le couple, ça fait quand même partie des remparts et de ce qui permet que tout ne s'écroule pas, hein, Brigitte Halsberge.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, on parle beaucoup de parentalité, mais on parle pas forcément de ce qu'on peut proposer. Donc de fait, nous, timidement, on essaye de proposer des choses quand les enfants sont en vacances, de proposer un petit peu du temps aux parents en couple pour pouvoir avoir du temps pour eux. C'est voilà, comment on
parce
peut...
qu'il faut des moyens finalement pour s'occuper de son couple.
Voilà, tout à fait, des espaces comme des maisons des familles où les couples peuvent venir et dialoguer ensemble, etc. Mmh. Donc voilà, c'est d'essayer d'ouvrir des petits espaces pour que les couples puissent avoir un petit peu de temps au milieu du reste de la vie, qui est pas toujours très simple.
Voire parler même de leurs difficultés. Patricia Delahaye, on en parle avec vous. Vous êtes psychologue, hein, et Claude Martin est sociologue en duplex de Rennes. Patricia Delahaye, vous souhaitez intervenir.
En fait, les gens qui s'en sortent sont ceux qui souvent font appel à l'imagination. D'abord, on se ressoude en se souvenant de tout ce qui est bon entre nous, de tous les plaisirs qu'on peut cultiver. En listant, par exemple, tous les plaisirs gratuits, en fait, on oublie dans notre société consommation qu'il y en a beaucoup. Il y a chanter, il y a danser, il y a se promener, il y a regarder des choses, il y a se parler, il y a faire l'amour, il y a se caresser. Enfin, vous voyez, il y a se souvenir aussi de toutes les belles choses. Je connaissais un couple qui, par exemple, se donnait un temps pour parler des difficultés. Voilà, on parlait des difficultés une heure par jour et après, on parlait d'autres choses, on vivait d'autres choses, on essayait de voilà. Il y en avait un autre qui s'imaginait, par exemple, ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient riches. Alors, ils s'amusaient beaucoup avec ça, même si, évidemment, l'idée était assez farfelue.
C'est vrai que le couple repose quand même aussi beaucoup, l'histoire d'un couple repose aussi beaucoup sur la communication.
Voilà,
je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Brazzaville au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Yann.
Oui, bonjour Daniel, bonjour Brigitte et bonjour les voisins et les voisines.
Vous souhaitez nous parler de votre histoire?
Oui.
On vous écoute, Yann.
Bon, voilà, ça fait déjà 3 ans, en fait. C'est une histoire qui remonte de 2012. J'avais une petite amie à ma première année universitaire, donc on s'est connus depuis la terminale. Et voilà, on est venu se rencontrer à nouveau à l'université. On a commencé, tout allait bien au début.
Ouais.
Et bon, après la mort de son père, elle était, puisqu'on était à Brazzaville, elle était repartie à Pointe-Noire, elle est repartie.
Oui.
Je l'aidais financièrement. C'est vrai, même quand elle était là, je faisais presque tout. Quand elle tombait malade, c'était moi. Et quand il y avait des documents à l'école, elle me faisait comprendre que s'il te plaît, tu dois m'aider parce que, voilà, on est ensemble. Et bon, je faisais tout parce que j'avais les moyens en ce moment-là. Et voilà, quand elle était repartie à Pointe-Noire, je n'avais plus ces moyens-là, puisque j'étais en alternance entre l'école et voilà les petits boulots.
Ouais.
Bon, bah, c'était après, elle avait pris une inscription dans une école privée, donc il fallait payer chaque mois.
Ouais.
Et il y avait des moments où parfois elle m'appelait en pleurant, écoute, s'il te plaît, tu dois m'aider, parce que moi je dis, écoute, tu ne travailles pas, je suis étudiant comme toi et je ne peux pas faire autrement. Et voilà, c'est... 2 mois plus tard, c'est un SMS qu'elle m'envoie, écoute, est-ce que tu as reçu l'SMS? Je dis non. Elle me dit, bon, écoute, je n'ai plus besoin de toi, voilà, mon père est mort, et je n'ai plus de soutien, je dois trouver quelqu'un qui doit vraiment assurer sur tout. Et voilà, j'aimerais que tu arrêtes de m'appeler.
Donc elle vous a clairement dit finalement que c'était la fin de votre couple, de votre histoire d'amour, en tout cas.
C'est ça, parce que
elle avait un vrai problème d'argent pour financer ses études.
Bien sûr,
et qu'il fallait qu'elle trouve donc un conjoint qui puisse lui financer ses études.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un problème de communication dans votre histoire, finalement, Yann ?
Problème de communication, je ne pense pas, parce qu'on s'entendait très bien. Mmh. Et de nature, je suis très tendre. Et je me laissais toujours aller par ses demandes. Quand elle me demandait quelque chose, je me battais, même quand c'était vraiment le fond qui me restait. J'utilisais pour ses dépenses.
Oui, vous avez joué cette solidarité à fond, finalement, dans la difficulté financière qu'elle vivait du fait du décès de son père. Donc, pour vous, c'est vraiment le manque d'argent qui fait que vous avez perdu cette fille que vous adoriez ?
Bien sûr, moi, je pense que premièrement, c'est d'abord le manque d'argent, parce que si j'avais les possibilités, je ne pense pas qu'elle allait partir. Et deuxièmement, cela joue aussi de beaucoup par rapport à son comportement envers moi, parce que elle voyait quand même les efforts que je faisais, parce que je travaille pas, je suis étudiant et voilà, je fais des petits boulots, mais elle a des parents, bien sûr. Donc c'était, en quelque sorte, pour moi, c'était une façon, je me disais, écoute, je suis obligé de le faire, je dois dépenser tout ce que j'ai, parce que je dois l'aider. Mais elle ne m'aidait pas, elle ne m'aidait pas.
Oui, c'était en sens unique. On a bien compris. Merci beaucoup, Yann, de nous avoir appelé. Je voudrais qu'on donne la parole à Claude Martin, qui est à Rennes. Claude Martin, les sociologues comme vous ont toujours beaucoup travaillé sur cette relation très complexe, comment l'argent s'immisce finalement dans les relations amoureuses.
Oui, je crois qu'on a une fâcheuse tendance à opposer l'amour et l'intérêt, comme si c'était évidemment deux pôles pour structurer et la vie conjugale et la plupart des liens sociaux. Or, c'est beaucoup plus intriqué qu'on ne pense. Je ne crois pas qu'on puisse, comme ça, considérer qu'on est soit sur le pôle de l'amour qui emporte tout, soit sur le pôle de l'intérêt qui, évidemment, est susceptible de conduire à des ruptures d'une grande brutalité. Tout ça se tricote d'une façon incroyablement complexe. Et on le voit dans la construction du couple, on le voit dans la déconstruction du couple, de la même manière. Hein. Les divorces sont des histoires où on se remet à faire les comptes autrement, si vous voulez. Hein. On fait les comptes en négatif en disant, voilà, tu te rends compte de tout ce que j'ai mis dans notre construction conjugale, dans notre vie familiale.
Y a-t-il un lien statistique
phénomène...
Oui, je vous en prie, Claude Martin.
Pardon. Oui, l'autre phénomène qui importe, je crois, c'est quand on pense à cette intrication, c'est les normes sociales qui nous environnent. Parce que dans beaucoup des témoignages qu'on a entendus, on sent que quelque chose reste de très puissant qui donne à l'homme un certain nombre de fonctions dont il ne parvient pas à se départir. Ce qui le conduit à la honte s'il ne peut pas les remplir. Quand le rôle masculin pour construire un couple, c'est d'être un bon pourvoyeur, effectivement, la honte vient immédiatement si on pense qu'on ne peut pas tenir ce rôle. De la même manière, dans une relation conjugale, une femme peut attendre beaucoup de protection, y compris matérielle, d'un homme si sa conception des rôles des sexes est celle-là. Aujourd'hui, on voit bien que se dessine un autre horizon, qui me semble plus facile d'ailleurs à tenter d'équilibrer, qui consiste à estimer que l'un et l'autre contribuent à ce rôle de pourvoyeur, l'homme et la femme.
Mais c'est ce qui se dessine quand même dans les sociétés des pays du Nord, non, plutôt ?
Oui, mais je crois que ça progresse un peu partout. C'est-à-dire, l'idée qu'on pourrait, hommes et femmes, être conduits à occuper différents volets de ce qu'on pourrait appeler le travail global, hein, le travail de soins aux autres, le travail domestique, le travail de production.
Et donc avec des solidarités en alternance au fil des accidents de la vie, finalement. Hein.
Exactement. Et je crois que le monde dans lequel nous sommes entrés, qui est aussi un monde de la précarité, où on sent que la prévisibilité de notre lendemain, de notre futur, de notre travail, de notre emploi n'est plus garantie, nous conduit à envisager autrement cette vision assez caricaturale, issue de la famille des Trente Glorieuses, on pourrait dire, hein, où l'emploi était stable, pérenne et surtout masculin, et où la division des rôles des sexes faisait que madame au foyer, c'était une image qu'on pouvait attribuer aux épouses.
Et est-ce qu'aujourd'hui, Claude Martin, il y a un lien statistique avéré entre chômage et divorce ?
Il y a plusieurs tentatives d'essayer d'établir comment le chômage peut conduire au divorce. Et on voit qu'il y a aussi, au fond, la causalité inverse, c'est-à-dire comment le divorce conduit à des trajectoires descendantes, si on peut dire, d'appauvrissement et quelquefois de chômage durable, etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, on pourrait dire. La précarité de l'emploi fragilise les couples de la même manière que les divorces fragilisent les trajectoires économiques.
Ouais. On parlait il y a quelques minutes de l'importance de la communication, évidemment, pour faire durer un couple, et c'est ce que disent tous les psychologues qui aident les couples à tenir, à se reconstruire, etc. Vous nous en parliez, Patricia Delahaye. Est-ce que dans des milieux où il y a un déficit d'éducation, où la précarité fait que on est à cran, je m'adresse à vous, Brigitte Halsberge du Secours catholique, est-ce que le couple peut continuer à compter sur ce lien et sur cette communication? Est-ce qu'elle arrive à durer cette communication?
Effectivement, ça dépend des couples. Moi, je dirais qu'il y a une série de personnes qui effectivement n'ont pas forcément vécu dans un environnement qui leur a appris ce travail de communication, cette possibilité de mettre des mots sur les sentiments, sur les choses, et aussi, dans un milieu précaire, cette habitude à éventuellement faire appel à quelqu'un d'extérieur fait pas trop partie du paysage. Donc, quand on essaye de effectivement avancer sur des choses de ce type-là, des partenariats avec des associations qui peuvent proposer des choses comme ça, bon voilà, il y a parfois un petit frein au départ.
Dans des milieux où les couples sont pas habitués à parler de leur couple, finalement,
en parler ailleurs. Oui, c'est pas forcément quelque chose. Il y a aussi des traditions de couple. Voilà, quand on voit la génération de nos parents, ça faisait pas trop partie du paysage de parler de son couple, de parler de comment construire son couple. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'apprendre, mais qu'il faut essayer de proposer.
Dans ces ateliers que vous proposez, justement, aux personnes qui sont en grande précarité, qui sont, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, parfois assises dans un logement extrêmement exigu, où il n'y a pas de revenus, il faut quand même peut-être redonner les... On est dans un pays où quand même l'augmentation des familles sans revenus est très présent. Le nombre de familles sans revenus ne fait qu'augmenter.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, cette idée de la communication, dans les lieux où on essaye de proposer des groupes de parole aux parents, où on essaye de donner du temps aux parents, que ça soit du temps de loisir ou du temps d'échange, on voit bien que la question centrale de la famille et du couple revient très très vite. Et une des choses qui est intéressante, c'est de voir que c'est entre eux qu'ils arrivent à échanger. On va voir des mamans ou des papas pouvoir parler de ce qu'ils vivent, se rendre compte déjà que peut-être les difficultés ou les complications ou les questions qu'ils ont, ben les autres les ont aussi, c'est toujours pareil. Et puis de s'échanger des trucs. On voit des dynamiques entre pères, entre parents, entre familles, où il y a effectivement des petits trucs qui s'échangent et on voit des personnes redresser la tête.
Le regard extérieur de la société sur ces personnes en grande précarité, c'est elle est seule, trois enfants, trois pères par exemple, vous savez, c'est ces formules comme ça à l'emporte-pièce. Comment c'est vécu, comment c'est digéré par ces familles-là?
C'est pas bien vécu, ils le disent eux-mêmes que ce sentiment d'être regardé de travers, c'est dur, c'est très très dur. Il y en a qui disent, pour les gens, on est personne parce qu'on est pauvre, ou quand on est pauvre, on peut rien choisir.
Parce que ça leur renvoie aussi l'idée que construire un couple, construire une famille n'est pas leur priorité, alors que c'est faux.
Je pense que construire une famille, construire un couple fait partie de leur priorité. Mais il faut effectivement les aider là-dedans, c'est-à-dire leur offrir des lieux. Et souvent, les lieux de parole sont des lieux où ça permet pour eux de reprendre confiance en eux. Et du coup, de réinvestir la relation avec les autres.
Patricia Delahaye.
C'est-à-dire que le sentiment de soi est vraiment très important dans ces histoires de précarité, et garder la fierté de soi-même, la dimension large de soi-même qui n'est pas réduite seulement aux conditions matérielles, c'est vraiment très important. Ce que je voulais dire, c'est que la précarité complique tout, évidemment, mais c'est vrai aussi de la maladie, c'est vrai aussi du vieillissement, c'est vrai aussi des accidents, enfin c'est vrai de tout. Alors vous parlez de communication, mais il y a peut-être certains couples qui pêchent par excès de communication. En fait, on parle de quoi? Et souvent, quand on est dans la difficulté, on va avoir tendance à ne parler que de ces difficultés. Et en fait, on se soude, on se retrouve aussi en parlant de ses bonheurs, de ses plaisirs qui demeurent. Mais qu'on, et évidemment, ce sont ceux-là qu'il faudrait réussir à préserver en quelque sorte et à valoriser. Et voilà. Donc,
oui, je voudrais qu'on laisse la parole au standard. Retour au standard au 33 1 84 22 71 71. Une voisine nous appelle d'Antananarivo à Madagascar. Bonjour, Saïmita. Bonjour. Soyez la bienvenue.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Vous avez 24 ans, hein, vous êtes mariée, je crois.
Oui. Et je suis mariée et je travaille à mi-temps. Mon mari travaille à plein temps et donc il est salarié à temps complet.
Oui.
Moi, comme je suis encore étudiante, je travaille simplement à mi-temps, mais je peux vous dire que chez nous, la misère affecte presque tout le monde et même nous, on n'a qu'une petite fille de 1 an, mais ça dépense déjà beaucoup. Et par exemple, pour nous, un salaire à mi-temps à moi, c'est réservé à ses besoins à elle. Donc, on gère le reste de l'argent pour les factures, les charges quotidiennes et tout ça. Donc, c'est pas facile, mais en tout cas, je peux vous dire que chez nous, la misère n'est pas vraiment une cause de divorce. Et les séparations restent très rares chez nous. Et il faut dire que même si on est pauvre, la séparation n'est pas une solution parce qu'en se séparant, on reste quand même pauvre. Donc je pense que les mariages ont choisi d'être pauvres ensemble.
Oui. Oui, c'est effectivement, vous faites un constat d'un grand bon sens, hein, mais qu'on a tendance à oublier, comme vous dites. Quand on se sépare, de toute façon, on reste pauvre quand même. On n'a pas réglé les questions financières. Mais ça veut dire que finalement, le couple reste à Madagascar. On va pas généraliser, bien évidemment, mais vous semblez nous dire que ça reste un bien qu'on peut cultiver et qui ne coûte pas forcément d'argent.
Oui, hein? C'est très fort. En fait, le lien qui unit les couples ici est très fort et la séparation reste très mal vue au milieu de la société. Donc même s'il y a des problèmes, même s'il y a des misères, les gens préfèrent faire face à deux plutôt que de le faire seul parce que en se séparant, la société nous voit d'un très mauvais œil. Donc les gens préfèrent rien que ça pousse les gens à rester ensemble, mais... Et je pense que chez nous aussi, le fait d'être ensemble est très important, même dans la société en général, en dehors du couple. Du coup, ce lien qui nous unit est très fort. Et on pense qu'en étant ensemble, on peut faire, on est plus fort et on peut faire face à la pauvreté. Mmh.
Ben, votre témoignage, finalement, donne beaucoup de réponses pour les auditeurs précédents qui nous ont appelés, qui vivent de grands malheurs sentimentaux à cause de l'argent. Merci beaucoup, Saïmita, de nous avoir appelés. Je vous laisse la parole, mesdames. Brigitte Halsberg, vous souhaitez réagir.
Mais tout à l'heure, Béatrice a dit que...
Patricia.
Pardon, désolée. Parler du bonheur. Et vous m'avez posé plusieurs fois la question sur le regard que posaient les personnes sur la précarité. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la précarité engendre souvent un grand isolement. Et une des choses qui permet de s'ouvrir à d'autres choses, c'est le lien social, c'est le lien avec d'autres, c'est le lien amical. Et souvent, quand on est dans la précarité, c'est ce lien amical se réduit. Et du coup, les relations qu'on peut avoir, c'est souvent les relations nécessaires, soit administratives, soit sociales, avec l'assistante sociale, etc. Et là, de quoi on parle ? Des problèmes. Et donc... Comment arriver à se donner des espaces, et c'est pour ça quand je parlais de groupe de parole, etc., c'est aussi pour cultiver ce côté-là, se dire comment on peut, nous, bénévoles du secours, poser un regard positif.
Ça, avoir une vie avec les autres sans pour autant parler de ses problèmes en permanence.
On n'est pas que ces difficultés, et comment on trouve des lieux pour pouvoir parler d'autres choses.
Et en même temps, Patricia Delahaye, vous, je sais que vous recevez des couples, en tout cas des hommes ou des femmes qui viennent vous voir seuls, et qui vivent dans le mensonge, hein, qui ont besoin de cacher les problèmes financiers pour faire survivre leur couple.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent être aimés que s'ils sont parfaits en tout point de vue, c'est-à-dire jeune, riche, beau, intelligent, riche, enfin voilà. En fait, heureusement, l'amour est beaucoup plus intelligent que ça et on peut aimer évidemment des gens qui sont pauvres, dans la précarité, tout ça, parce que c'est une personne qu'on aime avant un statut social. L'autre chose que je voulais dire, c'est que en fait, ce sont les conséquences de la les conséquences psychologiques de la précarité qui peuvent conduire au divorce aussi, c'est-à-dire par exemple l'alcoolisme, par exemple le repli sur soi, par exemple des choses comme ça. Et puis de plus en plus, y compris ici en France, on se rend compte que le couple c'est une solidarité. Et pendant les 30 Glorieuses, au moment où la vie était beaucoup plus facile, finalement on voulait des gens qui en effet étaient assez parfaits. Aujourd'hui on veut des gens fiables. Et c'est une dimension qui est de plus en plus prise en compte.
Oui, les replis familiales depuis les crises financières de 2008, même si ça ne se voit pas dans les statistiques, globalement.
C'est-à-dire, est-ce que je peux compter sur elle ou sur...
Les séparations et les divorces n'ont pas diminué, on peut pas le dire.
Non, pas du tout. Mais est-ce que je vais pouvoir compter sur elle ou sur lui? Oui. Ça devient un critère montant.
Oui, une valeur.
Oui. Une valeur, c'est ça. Oui, absolument.
Claude Martin, vous observez aussi d'assez près la situation dans un pays comme les États-Unis où il y a, je crois, un taux de séparation, de divorce extrêmement important par rapport à d'autres pays développés.
Oui, c'est un pays qui est très intéressant à regarder du point de vue de la France. C'est réciproquement qu'on peut regarder en miroir avec un taux de divorce qui est en effet encore plus élevé que le nôtre, mais qui a surtout une culture et une vraie politique du mariage, une pression au mariage. Une politique qui, à l'époque de George Bush, se traduisait par, je crois que c'est un déblocage de 300 millions de dollars pour soutenir le mariage avec des primes, des cours de préparation au mariage. Le système du Covenant Marriage, qui était un système dans lequel on s'engageait formellement à ne pas recourir au divorce quand on voulait envisager le mariage. Enfin, vous voyez, cette pression au mariage qui fait que les divorcés se remarient. Beaucoup plus que qu'en France. Donc c'est intéressant à opposer.
Y compris pour les milieux qui sont dans la grande précarité aux États-Unis.
Bah précisément pour eux, voilà ce que ça génère. Nous en France, nous envisageons assez facilement de ne pas commencer une vie familiale ou une vie conjugale par le mariage. Et en effet, la cohabitation est une alternative, y compris d'ailleurs sous la forme du Pax ou des contrats d'union civile possibles. Aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a donc des couples, des ménages dans lesquels le mariage n'est pas accessible. Parce que, précisément, cette pression au mariage nécessite des ressources et fait que, dans les milieux les plus défavorisés, on a un certain nombre de ménages qui se constituent par des naissances, hors mariage, qui sont fortement, d'ailleurs, stigmatisés.
C'est ça, donc c'est une exclusion de plus. Il y a l'exclusion par l'argent et l'exclusion par le non-mariage dans un pays comme les États-Unis, finalement, avec femmes seules, avec enfants et même pas mariées, sous-entendu.
Avec éventuellement tout de même une nuance, c'est que pour de très jeunes femmes, le fait de commencer sa vie d'adulte par une naissance, c'est aussi obtenir une forme de statut. Donc c'est de l'exclusion, mais pas seulement. On peut et on voit du coup depuis la crise des subprimes, ça a été assez frappant. Et nous avons un pendant en Europe et en France en particulier de couples qui continuent de vivre ensemble, même s'ils ne se considèrent plus comme des couples.
Merci beaucoup pour cette analyse concernant les États-Unis. Je voudrais qu'on donne la parole à un dernier auditeur au 33 1 84 22 71 71, qui est à Douala. Sidino, bonjour Sidino.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 25 ans et vous avez des difficultés sentimentales avec votre petite amie, semble-t-il, à cause de l'argent.
D'accord. Alors voilà, j'ai des difficultés. Je vis avec ma petite amie il y a cela 2 ans et demi. Au départ, nous vivions bien sûr dans le luxe. On avait tout ce qu'on voulait parce que mes parents me prenaient encore en charge. Et maintenant, j'ai décidé de mener ma vie en solo avec elle. Et c'est vraiment très très difficile. Alors, j'ai un tout petit boulot, j'ai un petit salaire, mais cela ne nous permet pas de joindre les deux bouts comme d'habitude. Mmh. Et alors là, elle n'arrive pas à comprendre que nous avons changé de cap de vie. Ouais. Néanmoins, c'est moi qui fais des efforts parce qu'elle n'a pas encore de boulot. Et elle a un enfant et tout.
Alors là, et le fait que vous semble, le fait que vous souhaitiez vous émanciper de vos parents, finalement, ça aurait dû vous valoriser vis-à-vis de votre fiancé, non?
Ah oui, c'était pour lui prouver que je suis capable de tout faire pour qu'on puisse nous en sortir, même si les parents ne sont plus là. Mais c'est ce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité de nous entretenir, de dialoguer, Et elle a des paroles que moi, je n'y supporte pas. Et c'est surtout ça qui nous crée des problèmes.
Merci beaucoup pour votre appel, hein, Sidino, et pour votre courage, parce que c'est pas évident de parler de ces problèmes de couple, surtout quand l'argent s'en mêle. Patricia Delahaye, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Sidino, qui devrait être davantage valorisé, me semble-t-il, hein, pour sa volonté de s'affranchir de sa tutelle parentale?
Ben oui, d'abord, et puis en plus, on peut mettre son couple et sa situation matérielle en perspective. C'est-à-dire que cette précarité, ouais, c'est un moment.
Ans. Il voilà, a que 25 ans.
C'est donc un moment de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut penser que ça va se dénouer de son côté à lui, de son côté à elle aussi, et ouais, que tout ça va s'améliorer. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à vivre le moment de manière trop intense, sans ouvrir sur l'avenir.
Un grand parfois manque de confiance aussi, hein, pour ces jeunes générations qui ne voient pas l'avenir de manière si positive que cela, non, Brigitte Halsberg.
Alors c'est sûr que quand on est dans une situation difficile, c'est pas facile de regarder plus loin. On dit toujours que pour se sortir d'une situation où il y a des nœuds, il faut aller un petit peu à l'extérieur pour voilà, sortir de la bulle de la difficulté. Mais tous ces jeunes en précarité, ils ont pas beaucoup de d'espace. Alors, on voit quand même beaucoup de familles aujourd'hui, de couples qui se forment et qui restent pendant un temps avec les parents, ce qui est pas toujours plus simple non plus.
Et puis il faut dire aussi qu'on a eu des beaux témoignages, hein, notamment qui montrent la capacité de résilience, la capacité de résister, de faire résister son couple, son histoire d'amour dans l'adversité. Je vais y arriver. C'est vraiment la fin de l'émission. Je suis désolée. Merci en tout cas à vous, Brigitte Halsberg du Secours Catholique, Claude Martin, sociologue. Vous avez publié Être un bon parent, une injonction contemporaine aux presses de l'EHESP, Université de Rennes. Et merci à vous, Patricia Delahaye. Vous avez publié Comment s'aimer toujours, sujet plus que jamais d'actualité, aux éditions Le Duc, et Ces amours qui nous font mal, aux éditions Marabout. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, ça sera le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes pour commenter l'actualité du moment.